Je pensais mentionner, Monsieur Addington m'a envoyé un SMS pour me dire que nous avons 1800 connexions et que cela augmente un petit peu chaque année. Des connexions en ligne, c'était le niveau cette année le plus élevé de plusieurs centaines de connexions, plus que d'habitude. C'est formidable d'avoir la technologie, d'être connecté à nos frères et sœurs à travers le monde comme ça. J'allais mentionner au début de mon sermon que ma femme et moi ont été mariés 35 ans, mais ensuite le Dr. Ward a mentionné que lui et sa femme venaient de célébrer leur 67e anniversaire de mariage. Alors j'ai effacé ça dans mon texte, j'ai dit oh « ben on vient tout juste de commencer quoi ». Donc oui, ma femme et moi vont célébrer notre 35e anniversaire de mariage. Nos deux fils aînés sont mariés, notre troisième fils va se marier le mois prochain. Les mariages sont l'une des occasions les plus joyeuses que vous avez dans la vie et dans le ministère, quand vous avez l'opportunité de conseiller les gens et puis d'accomplir, de faire la cérémonie de leur mariage. C'est une très bonne opportunité, pleine de joie, qui un peu comme la bénédiction des enfants, vous pouvez faire partie de cette vie des gens et d'aider leur joie, comme il est dit dans 1 Corinthiens. 2 Corinthiens, c'est un bon moment de passer ensemble. Si vous avez déjà été impliqué dans la planification de wedding, vous savez qu'il y a beaucoup de travail à faire dans la planification. Demandez à ma femme, honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de fleurs et à choisir et de détails et il semble que le moment de planifier ne finit pas. Le plan, c'est que Dieu dire de le faire une seule fois et il n'est pas en faveur du divorce, n'est-ce pas? Nous consacrons donc beaucoup de temps et d'attention dans cet événement de la vie, l'opportunité d'avoir un mariage, mais ce jour n'est que l'aboutissement de toute cette planification. Vous savez, j'ai eu des chances sur le conseil où on en parle de faire beaucoup de plans pour toutes sortes de choses et puis ensuite c'est fini, il y a beaucoup de on accomplit ça et puis après c'est fait. Dans notre préparation, j'ai appris quelque chose. Vous ne dites jamais à votre femme je m'en fiche, ça m'est égal. Parce que si vous dites « je m'en fiche », ça ne sort jamais bien. Ma femme viendra et me dirait « comment ça, si tu t'en fiches ? C'est pas important pour toi ?» Mais si je dis que je m'en fiche un peu, ça m'est un peu égal. Alors je lui dis « ce que tu veux, je suis d'accord avec toi ». Comme ça, ça va, j'ai appris ça, ça va bien. Mais dans la culture ancienne juive, les périodes des fiançailles étaient souvent très longues, ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui, certaines personnes se marient assez rapidement. Mais dans les temps anciens, la mariée restait avec sa famille, et après leur fiançailles, le marié retournait alors à la maison de son père et préparait une place pour sa fiancée. Il y retournait et lui et son père ajouteraient à la maison une autre maison. C'est très différent d'aujourd'hui. Souvent, les parents avaient une maison et il y avait une cour centrale et ils faisaient une addition à leur maison pour le fils et en gardant toujours la cour centrale de la maison. Et ensuite, il attendait que son père lui dise qu'il était temps d'aller chercher sa fiancée et ainsi le père devait s'assurer que l'époux avait bien fait la préparation qu'il devait faire avant de l'envoyer chercher sa fiancée. Et donc, quand il y allait, c'était généralement la nuit, il y avait des trompettes, il marchait dans les rues de la ville, il y aurait, vous savez, des trompettes qui sonneraient très fort dans la rue en disant que le marié et le fiancé arrivent, et ils traverseraient les rues et ils sonneraient cette alarme. Mais le marié n'était pas le seul à se préparer pour le mariage, comme je l'ai mentionné dans notre situation. Ma femme l'a probablement fait, j'ai plaisanté dans la congrégation récemment, comme vous le savez, que le travail du marié, c'est souvent juste de se présenter à l'heure. Ce n'est pas vraiment comme ça, mais je pense que les épouses, en général, la mariée a tendance à faire la majorité du travail, souvent. dans le récit d'Esther, dans le chapitre 2, il est au verset 12, Esther chapitre 12, 2 verset 12, Esther 2, verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour, elle prenait soin dans 6 mois, elle se préparait pour être choisie avec le roi, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes, et avant un mariage en quelque sorte. Il y a une femme dans la congrégation de Ann Arbor qui aime bien et qui est très bonne à organiser les mariages. Et c'est tellement d'attention, de détails, nous avions négligé un petit détail. Et en fait, ça n'a pas d'importance, on pensait, mais à chaque fois qu'on voit nos photos de mariage, je le remarque, c'est un des détails qui me semblait pas important. Mais les Écritures nous parlent d'un mariage beaucoup plus important à venir. Veuillez me rejoindre avec Apocalypse 19. Vous savez sans doute là où je vais. Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 6. Et j'entendis comme la foule d'une voix nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. » Et comme c'est souvent le cas dans les écritures prophétiques tournées vers l'avenir, nous n'obtenons pas beaucoup de détails dans de nombreux cas. Suffisamment de détails, nous lisons que le verset 7 dit que la mariée s'est préparée. La mariée, dans d'autres endroits, nous savons que cela fait référence à l'Église. Elle s'est préparée, autrement dit, elle est prête. Le moment où l'époux est arrivé, elle est prête. Elle s'est préparée. Ça continue en disant au verset 8, « Il lui a été donné de se revenir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes. » Cela montre, comme beaucoup de religions dans le monde qui parlent de la grâce, seul, nous n'avons pas à faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Nous voyons que la grâce en fait partie, nous avons besoin de la faveur de Dieu, mais il y a des actes justes que nous devons faire, les œuvres justes des saints. Que nous devons faire pour nous préparer pour l'époux? Nous voyons ces deux points ici, donc ma question est alors, que faites-vous dans votre vie pour vous préparer pour ce mariage? Que faisons-nous pour nous préparer? Le titre de ce sermon est « Devenir pur et éclatant ». Éclatant et pur, pardon. Dans Jean 14, nous voyons que le Christ dit qu'il va préparer, qu'il va nous préparer une place, une demeure. Dans Jean 14, verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, plusieurs pièces, autrement dit. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. C'est ce que fait la coutume juive également, le jeune homme allait dans la maison de son Père pour préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alors, que devrions-nous faire? Monsieur Chebi parle de parler la même chose, le même langage. Reportez-vous à Matthieu 25, avec la parabole des 10 vierges. Matthieu 25. Vous savez, en grandissant dans l'église, j'entendais ces choses-là et je me concentrais sur le fait qu'ils étaient tous endormis. Ce qu'elles étaient, elles étaient endormies, mais j'oubliais certains points évidents. Si vous vous reportez à cette parabole, nous la connaissons bien, l'époux représente Jésus-Christ, la mariée ou les vierges représentent ceux de l'église qui ont le Saint-Esprit. Lui, il représente le Saint-Esprit, mais au verset 1, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux aller à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Elles sont décrites comme des sages, parce qu'elles étaient préparées. Elles avaient de l'huile. Elles avaient des vases pour transporter l'huile. Les cinq autres étaient considérées insensées, car elles n'avaient pas préparé leurs lampes. Elles avaient des lampes, mais elles n'y avaient pas d'huile dedans. Elles n'avaient pas préparé des vases pour emmener l'huile. Voici la description des deux groupes. Vous savez que les cinq sages ont dormi également. Elles n'avaient pas de soucis, elles pouvaient aller se coucher la nuit en pensant peut-être que c'était la nuit, mon huile est allée et a obtenu les lampes, ont de l'huile supplémentaire. Elles ont bien dormi, les autres étaient insensées, elles n'étaient pas prêtes, c'était des vierges folles. Seulement la moitié d'entre elles n'avaient fait aucune préparation dans leur préparation pour le retour de l'époux. Le commentaire biblique dit que la seule distinction entre les groupes est que les sages apportent non seulement de l'huile, mais un approvisionnement. Elles planifiaient à l'avance. Elles ne savaient pas qu'il allait tarder. Et comme il s'avérait qu'il était tard, elles en ont eu besoin. Et comme il est dit au verset 5, elles ont toutes dormi. Les cinq folles, elles étaient paresseuses. Elles ne s'étaient pas préparées. Vous savez, peut-être qu'elles n'avaient aucun sens d'urgence, peut-être qu'elles sont allées se coucher sans réaliser qu'elles n'étaient pas prêtes, ou en se disant « Oh, on n'est pas prêtes, mais enfin on va se coucher quand même », tandis que les sages étaient prêtes, elles savaient qu'elles avaient tout préparé avant de s'endormir. Où en sommes-nous dans notre préparation? Vous savez que nous savons que Jésus-Christ va faire sa part, mais sommes-nous préparés? Remarquez ensuite qu'elles se lèvent, qu'elles préparent leurs lampes au verset 7. Les folles, toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. C'est presque comique, si ce n'est pas si triste, qu'elles se réveillent, elles sont préparées, elles s'attendent à ce que les autres les aident. Le mot grec ici est de faire de mettre en marche, d'être prête. Le mot prête ici, c'est qu'est-ce que c'est que nous savons que nous devrions mettre en place, que nous devrions changer ou fixer dans notre vie. Mais je vais un petit peu à l'avance. Les sages répondirent non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, ouvre-nous ». La force de la leçon est très claire. Nous devons être prêts. Vous savez, écoutez le premier message de Monsieur Chebi sur le fait de parler le même langage et ce que Dieu vous donne. Dieu ne va pas vous donner les mots qu'il faut. Si on n'a pas passé le temps dans la Bible, comment peut-il vous rappeler les mots à votre esprit par le Saint-Esprit si vous ne les avez pas étudiés pour commencer? Au verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il répondit et dit « Je ne vous connais pas. » Veillez donc si vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme vient. Je ne vous connais pas, vous le savez. Une épouse, comme nous le disons dans l'Apocalypse, doit se préparer, c'est à elle de faire ça. La moitié était préparée, l'autre n'était pas du tout préparée, comme nous le lisons ici. Elle n'était pas tout simplement prête, elle n'était pas prête. Remarquez dans 2 Corinthiens, Paul écrit pour décrire la raison pour laquelle il leur écrit. Si nous voulons être honnêtes, il y a beaucoup de parallèles avec l'Église moderne et l'Église à Corinthe. C'est triste, mais c'est la réalité. Nous pouvons tirer beaucoup de leçons en lisant l'épître à Corinthe, chapitre 11, verset 2. Il y avait 10 vierges qui étaient prêtes. Dans 2 Corinthiens 11, verset 2, Paul dit « Car je suis jaloux pour toi d'une jalousie pieuse. Excusez-moi, je vous ai fiancé à un mari et je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous représenter à Christ comme une vierge pure. » Le mot est « agnos ». H-A-G-N-O-S. Il vient du même mot de la racine sainte, qui veut dire sainte. Ça signifie être sacré, pur, irréprochable, pur de la chair, modeste. Au verset 3, « Toutefois, je crains que vos serpents ne se corrompent, que vos pensées, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. » Il contraste le fait d'être pur avec ceux qui sont corrompus. Sommes-nous devenus corrompus? Sommes-nous plus proches d'être comme le Christ dans notre vie, ou sommes-nous plus proches, ou avons-nous glissé en arrière? Avons-nous été un petit peu corrompus ici et là, ou sommes-nous quelque part entre les deux, car aucun de nous n'est parfait? Mais la déclaration dans Apocalypse 19 est que la mariée, la fiancée, doit se préparer. Donc, que devrions-nous faire si ce livre est plein de tout ce que nous devons savoir? Vous avez entendu le premier message de Monsieur Shebby. Est-ce que nous le lisons, ce livre? Aujourd'hui, il y a tellement de choses pour attirer notre attention. Il y a juste tellement de médias et de podcasts et de sites, et vous dites ce que c'est, et c'est là, c'est présent. Mais en fin de compte, c'est ce livre que nous devons lire. Parce que si nous ne faisons pas attention, vous savez, parfois, vous entendez sur l'internet quelque chose qui vous semble vraiment intéressant et qui vous semble, convaincant. Et ensuite, vous allez vérifier dans le livre et vous voyez que non, ça ne marche pas avec le livre. Il y a toutes sortes de choses sur l'internet. Et il faut toujours, principalement, voir le livre. Parce que ce livre, si nous le lisons, il nous montre tout ce que nous devons savoir sur le fait de devenir pur ou d'être charnel et corrompu. Dans 1 Corinthiens 3, verset 3, n'êtes-vous pas charnel, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnel? Est-ce que nous avons de la jalousie, des disputes? Si vous en avez, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, s'il y a des divisions et choses parmi nous, c'est parce qu'on est charnel. On doit se débarrasser de ces choses. Traitez-les maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Qu'en est-il de 1 Corinthiens 6? On peut se référer à beaucoup de passages dans la Bible et d'exemples, de listes de ce qui était ce à quoi Dieu s'attend de nous. Dans 1 Corinthiens 6, verset 9, on va revenir un petit peu en arrière en fait. Verset 6, mais un frère pleure contre un frère, c'est déjà un certain défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Combien de fois avez-vous été maltraité? Et notre nature humaine cherche à se venger. J'ai été maltraité, je peux prouver que c'est mal. Je sais que dans ma vie, j'ai appris, parfois, il vaut mieux juste supporter, et éventuellement, ces choses, Dieu nous délivrera, et il travaille d'une manière qui est probablement beaucoup mieux pour que la justice soit accomplie. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. C'est listé comme ceux qui ne seront pas dans le royaume de Dieu, et on se donne des excuses à nous-mêmes pour ne pas réparer les choses que nous devrions réparer. Car nous ne réalisons pas que nous sommes une épouse qui doit se préparer. Et il y a des, dans le royaume, il est dit au verset 9, les débauchés, c'est-à-dire ceux qui commettent la fornication, les idolâtres, les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il dit que ceux-ci n'hériteront pas du royaume de Dieu. Si nous avons ces choses, l'orgueil et les autres choses qui sont listées ici doivent disparaître pour que nous puissions être prêts. Remarquez au verset 11, parce qu'il continue en disant « C'est là ce que vous étiez au passé, à l'imparfait, quelques-uns d'entre vous, dit quelques-uns d'entre vous, mais vous êtes lavés, vous vous êtes sanctifiés. » Parfois, les gens commencent très bien, vous savez. Après le baptême, ils vont vite et ils commencent très bien. Et avant longtemps, s'ils ne font pas attention, ils recommencent à tomber dans ces choses desquelles elles sont sorties. Que ce soit l'alcoolisme, la cupidité. Nous les laissons simplement nous submerger. Et la mariée doit se préparer pour le marié pendant que nous avons encore le temps de le faire. Si l'une de ces choses existe, nous devons nous en occuper maintenant. Dans Éphésiens 5, et à nouveau nous pouvons parcourir de nombreux passages dans la Bible, comme il a été dit, s'il y a un trait de caractéristique qui ne ressemble pas à Jésus-Christ, à notre frère aîné, nous devons nous en débarrasser. Cette discussion sur le fait d'être disciple, c'est le mot, la même racine de mot que le fait de se discipliner, à suivre quelqu'un, à imiter quelqu'un. Dans Éphésiens 5, excusez-moi, je commence à parler et j'oublie de tourner ma Bible. Les congrégations attendent que je tourne. Quand j'arrive au passage, ils sont déjà finis de le lire. Car sachez le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Que l'on n'entend ni au verset 4, au verset 3, pardon, Éphésiens 5, verset 3. Que la débauche ni aucune importée ni la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. On n'entend ni paroles grossières à propos ou insensées ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Nous savons à quoi nous avons affaire personnellement. Changez-le maintenant. La mariée doit se préparer pour le retour. En continuant, verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Marchez comme des enfants de lumière, examinez ce qui était agréable, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, car, mais plutôt condamnez-les. Mais tout ce qui est éprouvé, réprouvé, apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Les écrits de Paul, de la pureté ou corruption, où en êtes-vous? Quelles que soient les choses que vous devez vaincre. Verset 14, c'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi », tout comme les 10 vierges qui étaient endormies. « Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts spirituels, les morts spirituels, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Mais marchons comme des sages. Jésus-Christ dit dans Luc 2 que toutes choses seront révélées à un moment donné. C'est à nous de le faire maintenant, de nous préparer. Vous savez combien de fois pendant les jours des pains sans levain, nous venons de terminer, nous avons entendu le terme « purger ». Purger le vieux levain que cette partie de l'épouse doit faire, c'est une partie de ce qu'elle doit faire. Mais si l'épouse ne l'enlève pas certaines choses qu'elle doit enlever, ce sera exposé devant tout le monde parce que Dieu dit qu'elle doit se préparer, tout est là. Il faut juste que nous le fassions. C'est le défi que nous avions dans Proverbe 30, verset 12. Proverbe 30, verset 12. Il est question, il y a une génération ici, il est dit, il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Ils ont les yeux hautains. En anglais, il est dit que les gens deviennent orgueilleux, ils pensent qu'ils sont mieux que les autres. Et c'est cette race qui se croit pure, dit Dieu, a besoin d'eux. Les gens ont besoin de se laver, de devenir purs et de se repentir. Dans Proverbe, à nouveau, c'est l'un des passages que je me souvenais quand j'étais enfant. En tant qu'enfant, vous apprenez les mots. Alors que vous grandissez, que vous étudiez, vous commencez à comprendre la profonde signification de ces choses. Dans Proverbe 30, Proverbe 6, verset 16. Il y a 6 choses que l'Éternel, que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Posez-vous la question. Les yeux hautains, c'est-à-dire que vous pensez mieux que les autres. C'est ça que ça veut dire, c'est de l'orgueil. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang en usant. Vous savez, la langue menteuse, c'est si vous dites une chose et que vous essayez de tordre la chose pour que ce soit à votre avantage. La Bible dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques. Les mensonges font tellement de dommages, parfois d'une façon qui ne peut jamais être réparée. Nous voyons dans le verset suivant, la dernière partie du verset 19, « Celui qui sème la discorde parmi les frères. » Ce mot a l'imagerie d'un archer qui jette des flèches. Une fois qu'il jette ses flèches, vous ne pouvez pas les récupérer, c'est trop tard. Celui qui excite des querelles entre les frères qui sèment la discorde, c'est fait, c'est le mal est causé. Et c'est une abomination aux yeux de Dieu. Si nous, en tant qu'Église, en tant qu'épouse, en tant que fiancée, nous ne nous préparons pas de façon active, la seule alternative est de passer par des épreuves de feu pour être purifiés. Repartons à Éphésiens. Reportons-nous à Éphésiens. vous connaissez l'avertissement de l'église de Laodicée que d'acheter de l'or afin d'être raffiné par le feu. Nous pouvons être raffinés maintenant si nous nous repentons, si nous prenons soin de nos problèmes. Dans Apocalypse 3, il change le passage tout le temps. Éphésiens 5, verset 14 maintenant, il passe d'une chose à l'autre. Éphésiens 5, verset 14. C'est pourquoi il dit, prenons garde donc de vous conduire à vers circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, nous voyons que les jours sont mauvais, les jours sont difficiles. Nous avons vu ce qui s'est passé. Vivant ici aux États-Unis, je ne peux pas parler pour le monde entier, mais je sais ce qui se passe aux États-Unis avec tous les mouvements et les problèmes de genre qui font des vagues dans les nouvelles, afin que d'autres, presque choses qu'on ne veut pas décrire. Les jours sont mauvais, n'est-ce pas? Et il est dit que ça sera à l'époque du Christ comme à l'époque de Noé. À quel point est-ce que c'était mauvais? Comment est-ce que ça peut empirer? Mais les jours sont mauvais. Par conséquent, ne soyez pas imprudents comme cinq des vierges, mais comprenez ce que la volonté du Seigneur est. Au verset 18, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, soumettant les uns aux autres. Au verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Dans Hébreux 10, 24 et 25, il est dit qu'il ne faut pas oublier l'assemblée les uns des autres. Il ne faut pas négliger d'aller à l'assemblée pour vous encourager les uns les autres et renforcer les bonnes œuvres, pour vous encourager les autres à être fidèles, à ne pas s'écarter de ce que nous savons être vrai. Alors, il entre maintenant dans un autre passage, il fait un parallèle entre la femme et l'Église. Au verset 5, il dit « Marie, que chacun donc aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. » Voilà c'est ainsi que l'épouse se purifie par l'eau de la parole de Dieu. Combien de temps passons-nous à étudier ce livre? Vous pouvez peut-être écouter des sermons, des podcasts, toutes sortes de choses en ligne, mais il faut s'assurer que ces choses que vous entendez sont vraies, plutôt que de planter dans notre tête des idées qui ne sont peut-être contraires à la Bible. Pas les sermons de notre site, évidemment, mais les choses qui sont disponibles en dehors de ça. N'ayant ni tache ni ride ou quoi que ce soit, qu'elle soit sainte, et donc pour la faire paraître sans tache ni ride ni rien semblable, mais sainte et irréprochable. Vous savez, notre mission en tant qu'Église, nous avons une devise et notre sceau qui est de prêcher l'Évangile et de préparer un peuple et de faire des disciples et de prendre soin de ces disciples. Nous continuerons à faire cela jusqu'au retour du Christ. Nous allons faire ça, c'est notre travail. Nous réaliserons ces deux facettes de notre mission jusqu'au jour où il sera annoncé. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous, car le mariage de l'agneau est venu. Et sa femme, son épouse, la fiancée, vous et moi, s'est préparée. Parce qu'il lui a été donné de venir, d'avoir des vêtements propres, purs et éclatants, car ce fin lin est donc les actes de justice des saints. J'espère que nous pouvons dormir bien ce soir, comme les cinq vierges sages. au lieu de simplement aller s'endormir sans être prêt. Parce que nous devons nous préparer maintenant et être comme les cinq vierges sages qui étaient préparées et prêtes à rencontrer son époux à son retour.